Journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Loin de se résorber, c'est un écart qui s'accroît de nouveau cette année. L'écart entre le salaire des hommes et celui des femmes. C'est comme si les femmes travaillaient gratuitement à partir d'aujourd'hui, selon un collectif féministe. Explication et témoignage dès le début de ce journal. En pleine COP26, nous serons aussi sur les rives du fleuve Colorado aux États-Unis, déjà victimes du réchauffement climatique. Hier soir à Glasgow, Joe Biden s'en est pris sévèrement à la Chine dans ce dossier du climat. Au sommaire aussi, un bilan du dispositif Devoir fait au collège, et vous l'entendrez, ce n'est pas la panacée. Et le nouveau spectacle d'Ariane Nouchkin avec son Théâtre du Soleil.
Et deux invités à 7h50, nous serons avec le directeur de Charlie Hebdo, Rhys, et la dessinatrice de Charlie, Alice, pour le livre Charlie Hebdo libère les femmes. Il paraît demain aux éditions Échappées.
France Inter.
Et si vous êtes une femme, vous commencerez à travailler bénévolement dès 9h22 ce matin.
Et cela jusqu'à la fin de l'année, un jour plus tôt que l'an dernier, estimation du collectif féministe Les Glorieuses. Pour ce calcul, l'association se base sur les statistiques d'Eurostat et c'est flagrant. L'écart entre les salaires des hommes et des femmes persiste en France. Il s'est même creusé à nouveau, 16,5%. C'est un point de plus que lors de la précédente enquête. Et c'est ce que vit très concrètement au quotidien, Monia, femme de ménage à Lyon, qu'a pu joindre Anne Bonne-Sous-Carrère.
10 ans que Monia fait le ménage, en EHPAD, en clinique, à l'opéra, et malgré tous ses efforts, sa situation professionnelle n'a pas du tout évolué depuis le début de sa carrière.
Les postes qu'on demande, on ne te les attribue pas, et Dieu sait si je demande.
Des histoires comme celle-ci, Marion Alcatraz, juriste du syndicat CNT Solidarité Ouvrier, en a entendu des dizaines.
En général, les salariés femmes déjà le plus souvent sont à mi-temps, contrairement à leurs collègues masculins, et d'autre part sont à des niveaux de qualification beaucoup plus bas que leurs collègues masculins. Et quand dans une équipe il y a des chefs d'équipe, il y a des personnes à haute qualification, ben en général ce sont des hommes.
Car à compétences égales, l'employeur a tendance à favoriser l'avancement d'un homme. C'est à lui qu'on propose de se former sur la dernière machine, de maîtriser le dernier produit ou la dernière technique de nettoyage. Et sans formation, pas d'évolution, donc un salaire qui stagne et une motivation qui se délite.
Les hommes ils progressent, les hommes avancent. Nous, quand on tape du poing, eh ben, on te dit ça te va pas, tu vas voir ailleurs. Donc moi, à force, eh ben, j'ai plus envie de me battre. J'ai plus envie de demander, j'ai plus envie de dire s'il vous plaît. Donc je fais ce qu'on me donne et je rentre à la maison.
Dans le secteur du ménage et des services, les femmes comme Monia représentent 67% des employés.
Le reportage d'Anne Bonne-Sous-Carrère, et à l'occasion de cette journée symbole des inégalités salariales, le collectif des Glorieuses interpelle les candidats à la présidentielle. Il faut des mesures concrètes pour éviter, je cite, d'attendre 2234 pour atteindre cette égalité. Alors quelles mesures justement? Vous retrouvez dès maintenant un dossier complet sur franceinter.fr. Les courbes du Covid de nouveau sous surveillance en Europe, l'épidémie reprend un peu partout. Conséquence, le masque fait son grand retour aux Pays-Bas, qui le réimpose en intérieur tout en étendant le pass sanitaire à tous les musées. 39% de cas en plus là-bas par rapport à la semaine dernière. Aux États-Unis, les autorités donnent leur feu vert au vaccin Pfizer pour les enfants de 5 à 11 ans. 28 millions de petits Américains potentiellement concernés avec un dosage 3 fois moins élevé que pour les adultes. Les États-Unis où les Républicains décrochent une victoire locale mais au retentissement national, leur candidat remporte l'élection au poste de gouverneur en Virginie, un état jusque-là démocrate. Premier gros revers électoral pour le camp Biden.
Le président américain très sévère d'ailleurs, 7h34 avec la Chine à la COP26.
Oui, il n'y est pas allé de main morte hier soir en réagissant à l'absence de Xi Jinping à Glasgow. C'était une grave erreur de ne pas venir. Les Chinois ont tourné le dos face aux problèmes climatiques, estime Joe Biden. Le locataire de la Maison Blanche tente de faire oublier les années Trump dans ce dossier du climat, alors que dans son propre pays, les effets du réchauffement se font déjà clairement sentir, comme pour le fleuve Colorado dans l'ouest des États-Unis, 2300 km de long à travers 7 États, un fleuve qui se vide de plus en plus, vous l'avez constaté Sébastien Paour, à sa source dans les Rocheuses.
Anthony Pro assure qu'il a descendu tous les rapides du fleuve avec son kayak depuis qu'il s'est installé à Cedar Edge en 84. À l'époque, dit-il, il y avait 2 mètres de neige au moindre col.
On n'a pas vu ce genre de neige depuis longtemps. Et aujourd'hui, le fleuve est si bas, le Colorado est si bas, que vous pouvez le traverser sans vous mouiller les genoux. C'est vraiment effrayant.
Le manque d'eau, la famille de Paul Kemeyer y a pensé il y a déjà 125 ans. Son arrière-grand-père a construit un petit barrage sur les hauteurs d'Eckert pour avoir son propre réservoir, mais ça ne suffit plus.
Je voulais planter un nouveau champ de luzerne, mais j'ai décidé de ne pas le faire parce que ces deux ou trois dernières années, nous n'avons pas eu la quantité d'eau normale pour l'irrigation. Et j'ai peur que l'année prochaine soit aussi faible.
Chaleur et sécheresse, un cercle vicieux qui se lie de plus en plus dans le fleuve. Brad Dudal est spécialiste de l'eau à l'Université du Colorado, à Fort Collins.
Un certain nombre d'études ont tenté de déterminer de combien le débit diminue pour chaque degré Celsius d'augmentation de la température. Et nous pensons que ce chiffre se situe quelque part entre 3 et 10% de baisse de débit par degré.
Le niveau du Colorado a baissé de 10% en 20 ans à cause de la hausse des températures. Boulder, Colorado, Sébastien Paour, France Inter.
Les États-Unis, qui comme la France ou encore le Royaume-Uni, se sont engagés hier soir à Glasgow à financer la transition énergétique en Afrique du Sud. C'est l'un des pays les plus dépendants du charbon aujourd'hui. La tournée d'adieu d'Angela Merkel passe par la France ce mercredi. Toute dernière visite en tant que chancelière avant de quitter le pouvoir dans quelques semaines à Berlin. Pour l'occasion, Emmanuel Macron l'invite à Beaune, au cœur du vignoble bourguignon. En 16 ans à la tête de l'Allemagne, Merkel a connu 4 chefs d'État français. Elle doit être décorée tout à l'heure des insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur. Ils sont 14 présents dans le box. La cour d'assises spéciale de Paris va continuer d'interroger aujourd'hui les accusés au procès du 13 novembre. Toute la semaine est consacrée à l'examen de leur personnalité. Hier, Salah Abdeslam s'est exprimé en premier, bien plus calme qu'au début du procès. Dans la foulée, c'est l'un de ses vieux amis qui a pris la parole, Mohamed Abrini, soupçonné, lui, d'avoir fourni une aide financière et des armes aux assaillants. C'est le récit d'Ariane Grissel.
Installé tout près de Salah Abdeslam dans le box, Mohamed Abrini ne cache pas son affection pour le principal accusé. « J'ai connu toute sa famille », explique-t-il. Tous les deux grandissent ensemble à Molenbeek, une enfance que Mohamed Abrini décrit comme « normale ». On n'est pas sortis du ventre de nos mères barbues avec des kalachnikovs, on a été des enfants. Chemise blanche, barbe soignée, cheveux ras, Mohamed Abrini est volubile, parle avec un léger accent belge. Il a aujourd'hui 36 ans, dont 15 qu'il qualifie de parcours criminel, vol, tentative de vol, conduite sans permis, échec scolaire, échec sportif, échec et maths, résume cet ancien joueur de foot. On a l'impression que vous n'avez pas vraiment de but à ce moment-là, interroge le président. Certaines personnes réussissent, vous ne pouvez pas rester à rien faire, alors on vole. Un argent que le jeune homme dilapide dans les casinos, ça m'est arrivé de gaspiller 4 000-5 000 euros par jour. Puis vient sa dernière sortie de prison en avril 2015. Mon quartier est vide parce que beaucoup sont partis en Syrie. Une semaine avant, j'ai appris que mon frère y a été tué. J'ai plus envie de faire quoi que ce soit à part aller en Syrie. Projet qu'il met à exécution 2 mois plus tard.
Ariane Grissel au procès des attentats de novembre 2015. À l'approche de la présidentielle, Jean-Michel Blanquer vante régulièrement depuis la rentrée son bilan au ministère de l'Éducation. L'une des mesures dont il est le plus fier, c'est le dispositif Devoir fait, une aide aux devoirs pour les collégiens volontaires en dehors des heures de cours. Pour cette année scolaire, l'accompagnement se mettra en place dès la rentrée de ses vacances de Toussaint. Le ministre vient d'ailleurs de le renforcer en octroyant davantage d'heures supplémentaires. Pourtant, Devoir fait rate parfois sa cible, selon une étude réalisée par des chercheurs de l'université d'Aix-Marseille. Les explications de Sonia Princet.
Le dispositif Devoir fait doit en principe donner un coup de pouce aux élèves les plus faibles. Mais selon Karine Millon-Forêt, chercheuse en didactique à l'université d'Aix-Marseille, les élèves les plus en difficulté ne sont pas ceux qui en profitent le plus.
Ils ont plus de mal à rester concentrés. Parfois même, on a pu observer que certains perturbaient les autres élèves parce qu'ils se sentaient incapables de faire les devoirs qui leur étaient donnés. On a pu observer certains progrès, mais ces progrès sont généralement vraiment minimes. On a parlé du coup d'effet colibri. Ils ne permettent pas à l'élève d'améliorer ses résultats aux évaluations. Certains élèves sont découragés parce qu'ils ont fait des efforts durant ce dispositif et pourtant ils n'obtiennent pas de meilleures notes.
Autre problème, les professeurs ne peuvent pas toujours apporter une aide dans une discipline qui n'est pas la leur, comme l'a constaté Julie Gobert, chercheuse elle aussi chargée de cette étude.
Par exemple, un professeur de français vient demander quelques explications à un professeur de sciences sur un exercice de mathématiques sur lequel il a quelques difficultés. Bon, très vite, le petit problème est réglé, il va pouvoir aller retourner auprès des élèves pour aider. Mais effectivement, on a pu observer des petites situations comme ça, un peu délicates.
60% des heures d'aide aux devoirs sont assurées par des professeurs, 40% par des surveillants, des assistants d'éducation qui n'ont pas forcément les compétences et la formation nécessaires pour du soutien scolaire.
Sonia Princey, ça ressemble fort à une tentative d'éteindre l'incendie. En pleine crise de réputation, Facebook surprend en renonçant à la reconnaissance faciale. Le groupe va supprimer cette technologie sur son réseau social. Depuis 2010, elle permettait d'identifier des personnes sur des photos. Un tiers des utilisateurs de Facebook l'ont activée. Mais la reconnaissance faciale est régulièrement pointée du doigt par les défenseurs des libertés individuelles.
Et c'est bien plus qu'un simple spectacle, Alexis, des 7h40. C'est une aventure artistique qu'Ariane Nouchkine dévoile ce soir.
L'île d'or, le nouveau spectacle de la metteuse en scène du Théâtre du Soleil. On l'a longtemps attendu, retardé d'un an en raison de la pandémie. C'est à voir à la cartoucherie de Vincennes, une grande fresque que la troupe a créée dans le plus grand secret, Stéphane Capron.
De cette île d'or, ce que l'on peut juste vous dire, c'est qu'Ariane Nouchkine et son autrice Hélène Sixius sont allées puiser l'écriture dans la tradition du théâtre japonais.
L'île d'Or, c'est une île à la fois qui existe et qui est imaginaire et qui se situe quelque part dans les mers japonaises. Où est-ce qu'on va emmener les spectateurs ? On va les emmener là où on nous a emmenés nous-mêmes, c'est-à-dire vers un cauchemar, une insomnie, un rêve, quelque chose qui est de l'ordre à la fois du désir et de l'effroi et qui nous permet des voyages nécessaires et impossibles, si impossibles dans la réalité.
À 82 ans, Ariane Nouchkine n'a rien perdu de son appétit pour le théâtre.
Je crois à la force thérapeutique du théâtre. Ça doit faire du bien, le théâtre. Ça doit donner des forces. Même au prix d'une lucidité parfois cruelle, je pense que la catharsis, ça existe. Et qu'un public doit sortir du théâtre en se sentant mieux, même s'il est, j'espère, bouleversé, ému, etc. Mais il doit se sentir plus fort, plus confiant.
80 personnes ont travaillé pendant 3 ans sur ce spectacle qui est comme un retour aux sources pour Ariane Nouchkine qui avait découvert la tradition du théâtre japonais au début de sa carrière.
L'île d'or, c'est à voir à la cartoucherie de Vincennes dès ce soir donc.
Alexis Morel, merci. L'édito politique à suivre.
Les études montrent que la protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps. Il est donc important de faire une dose de rappel pour continuer à se protéger et à protéger les autres. Quand faire sa dose de rappel ? 6 mois après votre dernière injection, si vous avez 65 ans et plus, vous avez une maladie grave, vous êtes un professionnel de santé éligible. Vous êtes aussi concerné si vous êtes dans l'entourage d'une personne immunodéprimée. Vous avez été vacciné avec le vaccin Janssen ? Vous pouvez faire votre dose de rappel dès 4 semaines après votre injection. Enfin, si vous êtes immunodéprimé, vous pouvez faire votre rappel à partir de 3 mois après votre dernière injection sur avis médical. N'attendez pas. Faites votre dose de rappel chez un professionnel de santé près de chez vous ou prenez rendez-vous sur www.sante.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.